à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité des Ciel et Blanc. Le Racing qui n'a pas joué ce week-end. Les mauvaises langues diront le Racing n'a pas perdu ce week-end. Le Racing n'a pas joué ce week-end, match à Brest remis. Mais on est au tiers du championnat, c'est l'occasion de faire un premier bilan. On le fait ce soir avec Frédéric Vogel. Salut Fred.
Salut.
Planète Racing sur RBS et en face de toi un autre habitué de la maison, Sébastien Stam. Salut Seb.
Bonsoir à tous.
Pas de match non plus pour toi avec la FAIC ce week-end.
Non, match
remis. Toi, c'est envolé aussi ou...
Non, c'est la pelouse qui était pas bonne.
Allez, au tiers de la saison, et alors que le Racing a perdu quelques places hier au classement pendant que le reste de la Ligue 1, lui, jouait, on va parler... dans ce bilan, et ben, tout d'abord de voir où en est tout simplement le Racing après 11 matchs. On parlera de l'attaque, bien sûr, un des gros sujets qui continue d'inquiéter, de faire parler en tout cas les supporters. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on parlera des individualités aussi, qui s'est révélé, qui a déçu, quelles sont les satisfactions, les déceptions de cette première partie de saison. Et puis on parlera aussi, bien sûr, du calendrier. Il reste 6 matchs en 2023 avant de clore la fin des matchs allés, en tout cas sur cette année 2023. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, on est parti. Où en est le Racing au tiers du championnat? Qu'est-ce qui est en chantier? Est-ce qu'il est en danger, ce club? Je vais vous demander, messieurs, pour prendre la température un petit peu, de me dire, allez, sur cette première partie de saison, un mot pour qualifier votre état d'esprit, et puis de m'expliquer ça en deux mots juste derrière. Fred?
Bah moi, c'est indifférence. Ouais, indifférence dans laquelle...
C'est pire que tout, l'indifférence.
C'est ça, c'est pire que la colère et la rébellion. C'est l'indifférence dans le jeu qu'on a actuellement, où on voit qu'il y a, on voit pas où il y a du positif là-dedans. Et l'indifférence dans laquelle les supporters sont en train de s'enliser tout doucement. On sent qu'il y a que beaucoup de gens sont en train de lâcher. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, soit il y aura un vent de révolte à un moment donné collectif, et ce qui se permettra peut-être de s'en sortir. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et ça fait peur là-dedans.
Sébastien, état d'esprit, bilan.
Perplexe, je dirais. Donc, puisque derrière, on alterne, des matchs où derrière on se dit il y a peut-être quelque chose, d'autres on se dit il y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est pas évident là sur ces 11 premières journées de se projeter sur l'avenir et de se dire le Racing où est sa place dans ce championnat. On le voyait, je pense peut-être bien plus haut que ça de ce qui était prévu à la base. Et aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que Strasbourg devra lutter aussi certainement pour le maintien.
C'est sa place, en tout cas, pour l'instant. Regardez d'ailleurs le classement de cette Ligue 1, classement très étonnant, hein, messieurs. C'est plus serré que jamais. La semaine dernière, le Racing était encore quasiment dans la première moitié du classement. C'est extrêmement serré derrière Reims, hein, grosso modo. Le Havre, d'ailleurs, qui viendra bientôt à la Méno, est à 15 points. C'est 3 petits points seulement devant le Racing. Tout ce paquet d'équipes se tient en à peine une victoire, à peine plus. Le Racing qui glisse, hein, néanmoins, qui était 12e avant cette journée, qui perd 3 places. Un petit point seulement devant Lorient, qui est barragiste pour l'instant. Derrière, Clermont a gagné ce week-end, Lyon a gagné ce week-end. Fred, alors on en parlait juste avant l'émission, quand on ne joue pas et qu'on recule inconsciemment, indirectement, on devrait peut-être pas, mais on se met un petit peu de pression quand même.
Ah ben c'est clair, et puis ce match à Brest finalement, il va être très important. Là il y a une grande trêve aussi qui permet peut-être de travailler ou pas l'amélioration, on le verra clairement sur le terrain face à l'OM. Mais c'est vrai que les autres jouent, en plus les autres gagnent, donc tu prends un coup de pression encore en plus, alors même si effectivement c'est que le tiers du championnat et tu peux te dire qu'il y a encore beaucoup à jouer, il y a notamment des matchs clés face au Havre, tu l'as dit, qui vont arriver, mais c'est vrai que forcément tu te vois glisser tout doucement, que la marge de manœuvre en plus, comme derrière ça gagne, est en train de diminuer, et puis qu'à un moment donné tu vas avoir le coup de pression, et avec une équipe aussi jeune, est-ce que c'est une équipe forcément qui, quand elle est en haut, ça va bien, mais quand tu es dans le dur là-dessus, est-ce qu'elle aura la capacité de se relever? Elle a déjà pas de capacité en ce moment à faire montrer grand chose, alors
elle est inquiétude de temps en temps, hein, quand même, comme Montpellier ou à Rennes. Laissons ça à son crédit, Sébastien. Les nombreux entraîneurs comme toi qui passent sur ce plateau cherchent souvent la patte de l'entraîneur, l'idée directrice. Est-ce que tu commences à y voir plus clair quand même au bout de 11 matchs dans ce que le Racing propose cette saison?
C'est un petit peu le bilan et le constat qu'on peut faire sur ces 11 premiers matchs, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment trouvé l'équipe plus ou moins type, le système type, l'animation type, même si des fois on peut perdre des matchs. Mais c'est vrai que si on prend les statistiques sur ces 11 matchs, on a quand même changé plusieurs fois de système de jeu, du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 3-5-2. C'était sur 11 matchs, ça fait beaucoup de changements de système, et pour que les joueurs puissent avoir des repères communs et sur les deux différentes animations, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc moi j'ai l'impression justement que aujourd'hui on trouve pas, on a du mal à se dire ben voilà, on tient notre système de jeu, on tient notre philosophie de jeu, comme peut l'avoir Nice, alors qui procure pas forcément du beau jeu, mais qui sont très forts défensivement, qui ont des armes offensives pour faire mal. Nous aujourd'hui, on n'est pas bon dans la maîtrise collective, sur la projection, sur la phase de contre-attaque, c'est aussi compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec nos joueurs, avec notre typologie de joueurs, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour être le plus performant possible?
Le principal chantier du Racing, en tout cas le plus visible, c'est l'attaque, c'est la deuxième partie de cette émission. On s'est penché la question, c'est pourquoi le Racing marque si peu. Et là, c'est pas compliqué, il suffit de voir des chiffres. Alors on sait quand les statistiques ne font pas tout, mais quand elles s'empilent comme sur ce carton, regardez, le Racing qui est un des cancres de la classe dans à peu près tous les secteurs, 17e pour en termes d'attaque, 17e au nombre de balles touchées dans la surface, 17e au nombre de tirs, 18e même au nombre de tirs cadrés. Fred, pour gagner des matchs, il faut marquer. Pour marquer, il faut tirer. Il faut cadrer aussi. Les chiffres sont implacables parfois.
Et ça sera notre place bientôt si on continue comme ça. Hein. On va être clair aussi. Tu parlais de système de jeu. Effectivement, ça avait commencé en 3-5-2, 5-3-2. Et bizarrement, après, effectivement, ils voulaient mettre en place ce 4-3-3 qu'on a retrouvé. Mais là, c'est blessé. Et il va être absent pendant plusieurs semaines. Tu mets qui à gauche? On n'en avait que deux des ailiers. Hein. Donc là aussi, le système, il est en train de tomber pratiquement parce que tu essaies de mettre en place un système que tu veux jouer, mais tu n'as pas les joueurs pour le produire. Donc vraiment, là, on peut être sceptique. Et effectivement, les statistiques sont là. Tu n'as pas évoqué non plus le fait qu'on n'est toujours pas marqué en première mi-temps, qu'en nombre de tirs cadrés, on est même pas dernier de la classe, on est même en dessous pratiquement.
J'ai envie de dire, on n'est que 18, on ne peut pas faire.
Voilà, mais ça devient très difficile. Et à un moment donné, malgré le fait d'avoir marqué quelques points sur des matchs où on n'avait qu'un tir comme à Metz, et à un moment donné ça va nous rattraper, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui on sent bien que tu prends l'illustration aussi, hein. Contre Rennes, on fait rentrer Gamero Motiba qui font quelque chose de bien, qui marque en plus. Tu les fais pas jouer tout de suite face à Clermont alors que tout le monde s'y attendait. Là aussi, quel message t'envoies à ces joueurs-là? Et puis derrière, tu les fais rentrer en fin de match où ils ont encore fait presque la différence et ça ne s'est pas joué à grand-chose pour qu'on gagne finalement par ce hors-jeu-là. Mais derrière, c'est toujours brouillon, tu trouves pas la bonne solution et la potion magique, elle est toujours pas faite.
Sébastien, tu partages ce scepticisme où on a l'impression que l'attaque, ça a autant derrière, on a trouvé un peu de stabilité. En tout cas, les titulaires sont régulièrement les mêmes. Alors, en attaque devant aussi, c'est régulièrement les mêmes, sauf que, effectivement, Emmanuel Emega démarre tous les matchs où il est apte, mais il est à un seul but. Motiba qui marque à 3, Gamero qui semble faire des choses ne joue pas beaucoup non plus. Ça illustre un petit peu le chantier, le manque de certitude dans cette animation.
Alors régulièrement les mêmes, j'aurais peut-être même envie de dire non, pas vraiment, puisque sur les 5 derniers matchs, on peut se voir que les attaquants se sont vraiment partagés plus ou moins le temps de jeu. Sur les 5 derniers matchs, c'est 450 minutes de jeu. Il y a Motiba qui a 260, Emega 230, Saï 175, Gamero 175. Il y a juste Bakwa qui avait un petit peu plus de temps de jeu. Mais disons que là encore une fois ça montre que derrière on trouve peut-être pas forcément justement nos 2-3 joueurs types sur le profil offensif ou pour donc voilà on sait pas trop aujourd'hui voilà qui est porteur sur le front d'attaque, donc le joueur qui est là, après que derrière ça bouge et que les profils se mettent de la concurrence, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui le joueur qui pèse sur les défenses adverses, qui monopolise une défense. Donc et c'est là où c'est peut-être un peu plus problématique dans notre animation.
Réponse dans 2 semaines encore, puisqu'il y a 2 semaines avant de préparer Marseille, dont on parlera tout à l'heure. Avant la petite pause dans cette émission, je voulais quand même voir le positif. On va parler des individualités sur ces 11 premiers matchs de la saison. Fred, trouve-moi du positif dans les joueurs, en tout cas, qui t'ont agréablement surpris, si on parle d'individualités strictes, parce qu'à un moment, c'est des individualités aussi qui font une équipe, qui là-dedans tire son épingle du jeu, qui t'a agréablement surpris.
Je dirais pas agréablement, parce qu'il en a continué ce qu'il a fait les saisons précédentes, mais c'est notre gardien. Et Matzels, qui est le seul à surnager pratiquement là-dedans. J'ai même pas envie de sortir un autre joueur du lot parce que même je suis même déçu pour des joueurs qui étaient effectivement sur une pente ascendante comme Doucouré ou Diarra, où tu sens qu'ils sont en train de stagner et qu'ils sont plus du tout à leur niveau de passé. Pensez aussi pour Diallo qui a peut-être mis son abri et sa famille à l'abri pendant quelques années, mais qui a marqué deux buts depuis qu'il est arrivé là-bas et qui joue même plus. Donc voilà, c'est triste.
Des idées pour le mois de janvier.
Je sais pas si c'est possible, mais c'est vrai que ça va être difficile et trouver du positif là-dedans. Ben, personne m'a vraiment surpris.
Sébastien, un Marvin Senaya qui s'est fait sa place à droite, un Lucas Perrin peut-être.
C'est ce que je disais. Moi je pense que bien sûr Cels qui est un incontournable, mais derrière Lucas Perrin a montré aujourd'hui sur son temps de jeu et sur ce qu'il fait des choses cohérentes. Senaya pareil de son côté. Angelo qui a des capacités, où on le voit, il a des capacités, mais le faire comment, le faire dans quel tempo, comment l'utiliser ce joueur-là. Donc il y a quand même certains joueurs qui ont cette capacité à exister dans cette équipe-là et à ce niveau-là. Maintenant, c'est quels moyens on leur donne, quels repères on leur donne pour pouvoir être le plus performant possible. Mais je pense que il y a quand même une ossature à trouver avec des joueurs peut-être comme Gilbert, comme Gilbert, Diarra qui était bien sûr l'année dernière, mais qui reste des jeunes joueurs, mais aujourd'hui on le voit, Diarra sur ses 229 minutes jouées sur les 5 derniers matchs, la moitié du temps, alors que l'année dernière il était indétrônable à son poste. Donc aujourd'hui c'est des joueurs qui c'est compliqué de confirmer. Donc une année où ça se passe bien comme l'année dernière, il faut pouvoir confirmer au haut niveau. Et pour ça, il faut une ossature, il faut une bonne ossature. Donc, chose qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à peut-être trouver.
Voilà pour ceux qui tirent tout juste leur épingle du jeu. On parlera de ceux qui ont déçu dans cette première partie de saison. Juste après la pub, on parlera du calendrier aussi et des 6 matchs qui attendent le Racing jusqu'à la fin de l'année. Et ils vont compter cher, évidemment. Puis on parlera de la perspective du mercato. On se retrouve dans un instant, juste après ça. La deuxième mi-temps de ce Cop Racing. On va terminer notre baromètre des individualités. On a parlé de ceux qui s'en étaient sortis à peu près, Fred, ceux qui t'ont déçu. Ne me fais pas une liste à la Prévert, je la sens longue, mais si tu devais en sortir l'un ou l'autre particulièrement symptomatique ou révélateur de ses difficultés de ses 11 premiers matchs.
Hein. Forcément, avec l'étiquette qu'il a, s'il a une grosse déception pour le moment, et on lui a mis tellement ce coup de pression, et cette étiquette, elle est dure à porter hein, pour un jeune comme ça.
Plus important entre creux du club.
C'est ça, pour 20 millions d'euros. Voilà. Donc ça, forcément, ça va être difficile pour lui. Et mes gars, moi, j'avais vu des choses plutôt pas mal en préparation, et là, je suis vraiment déçu aussi, parce que c'est pas le joueur que j'avais retrouvé en prépa. Je voyais prendre la profondeur, il avait de la vitesse et tout, et là, ça marche pas du tout. Tu vois aussi que les matchs de préparation, c'était pas... C'est pas la Ligue 1, quoi. Et puis après, bah, tous les joueurs qu'ils ont recrutés, on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, aucun n'a répondu, en tout cas à court terme, vraiment aux attentes. Et une pensée aussi pour Cédousso, qui était capitaine des Verts et qui a disparu de la circulation.
Voilà, mais qui donc, est en sélection. On en parlera dans un instant. Sébastien, pareil, rapidement aussi, de qui tu attends plus, enfin particulièrement, en tout cas.
Non, mais je pense que bien sûr, Emenga sur le front d'attaque, on attendait tous, à un joueur qui puisse faire mal aux adversaires, et on attendait beaucoup de lui. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Demingue au milieu de terrain où c'est quand même un peu léger, où ça alterne le bon, le moins bon. Donc encore une fois, c'est ce qui pose problématique, en fait, c'est des joueurs qui ont été recrutés, sur lesquels, à la limite, que Diarra performe un peu moins, parce que c'est compliqué de confirmer d'une saison comme il a pu la faire. Il est jeune, apprentissage et tout ça. Mais derrière, quand on cible un recrutement, c'est pour mettre des choses en place, et c'est pour avoir une philosophie de jeu bien précise et bien attendue, je pense. Et aujourd'hui, sur le recrutement qui a été effectué, des joueurs qui ont été ciblés, mis à part Angelo qui affole un petit peu, sur le reste, c'est un peu décevant.
Loin, en tout cas, effectivement, de ce que les montants dépensés pouvaient laisser espérer. Le Racing qui est en plein travail, puisqu'il y a 15 jours encore de préparation et de boulot avant le prochain match. Ce sera Marseille à la Méno dans quasiment 2 semaines. Le Racing qui a 6 matchs encore au programme. On va jeter un coup d'œil sur ce calendrier d'ici la fin de l'année 2023. Calendrier un petit peu à trous, parce qu'il va jouer 6 matchs en quasiment 4 semaines et des poussières, dont 3 en 8 jours. On commencera par Marseille, donc à la Méno, 3 matchs en 8 jours derrière, avec le déplacement à Reims, déplacement à Brest pour le match en retard le jeudi et réception dès le dimanche du Havre, de concurrents directs assez clairement, même si le Havre pour l'instant le promu est dans la première partie de tableau. Et puis on terminera cette année 2023 à Lorient et par la réception de Lille. Déjà, il y a ce trou de 15 jours. Sébastien, comment on bosse, sachant qu'une partie des internationaux, on en parlera, est en sélection en plus.
C'est toujours compliqué, là, surtout que, comme dit, Strasbourg n'a pas joué ce week-end, donc ça fait une très, très grosse trêve. Donc c'est compliqué à gérer. Et c'est surtout de perdre le fil de la compétition. Surtout qu'après, ils vont surtout enchaîner un match tous les 3 jours, le 7 décembre, le 10, le 17, le 20, là où le rythme il sera totalement fou. Donc on va passer d'une période où derrière ils ont rien, quasiment rien pendant un mois, et où derrière ils vont enchaîner tous les 3 jours des matchs à pression. Donc là, ça va être vraiment une question sur les préparateurs athlétiques, de savoir comment doser les charges de travail pour que les joueurs soient le plus performants possible match après match, et surtout sur cette fin de cycle aller, pour que derrière les joueurs soient dans les meilleures conditions, avec les conditions climatiques qu'il y a aussi ici sur le secteur.
Plus compliqué aussi.
C'est plus compliqué, mais je pense que oui, c'est pas évident. Et là, je pense que là, c'est le staff qui doit travailler vraiment ensemble et de pouvoir tirer le meilleur des joueurs et d'éviter aussi surtout des blessures.
3 matchs en 8 jours, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu ça depuis le début de saison. Est-ce que ça va amener mécaniquement Fred, le Patrick Vieira, forcément à faire tourner, ce qu'il a quasiment pas fait? Pour l'instant, il a essayé a priori de mettre toujours la même équipe possible. On peut s'imaginer, quand il y a 3 matchs en 8 jours, parfois on fait tourner, ce qui, comme dit, n'est pas dans son ADN, en tout cas de ce qu'on a vu depuis le début de cette saison.
Peut-être être forcé aussi, hein, comme tu l'as dit aussi, avec les blessures. Les terrains vont être très difficiles dans les prochaines semaines. On le voit là avec tous les matchs annulés ce week-end encore. Et après, derrière, tu as des matchs effectivement de notre championnat maintenant. Le Havre, il ne faudra pas le rater. Lorient, pareil. Ramener peut-être quelque chose de Brest. Ça va être peut-être ciblé. Vu l'état dans lequel on est aujourd'hui, il faut presque mettre tout sur certaines rencontres et puis espérer gratter quelque chose à droite, à gauche. Après, on sait que quand on va à Reims ou quand on va à Brest, c'est toujours compliqué. Et ramener quelque chose de là-bas, ça va l'être. Mais bon, après, le Racing dans une position de toute façon où il ne peut pas faire la fine bouche, et il va falloir compter sur tout l'effectif. Et après, comme on le disait avant, les points faibles aussi, c'est que ces joueurs-là, beaucoup n'ont pas joué en Ligue 1 avant, ou pas du tout, à part Silla qui avait fait un peu de Ligue des Champions. Le reste, ça reste de la Ligue 2. Donc comment est-ce qu'ils vont gérer effectivement cette pression-là d'avoir des matchs couperés et de finir juste avant Noël, où tu peux te retrouver dans une très très mauvaise position?
Comment donner, Sébastien, de la fraîcheur, et comment faire que les rentrants éventuels aient du rythme, quand on voit Frédéric Gilbert qui après clairement dit que il n'a pas joué depuis 2 mois et quelques, donc il a beaucoup de mal physiquement. Là, on va enchaîner des matchs, faire rentrer des Persic, des Aoulou, des Sissoko par exemple, pour faire tourner, pour apporter un peu de fraîcheur. Ces joueurs n'ont quasiment pas joué depuis le début de saison, ils n'ont pas du tout le rythme.
Alors, c'est sûr que c'est pas évident. Maintenant, il va falloir quand même s'appuyer sur ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs d'expérience aussi, qui connaissent.
Pour l'instant, c'est placard.
Mais,
hein.
Et voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, on va devoir s'appuyer sur ce type de joueurs quand même. Donc aujourd'hui, après, je connais pas la politique en interne de Strasbourg et ni de ces joueurs-là, athlétiquement parlant et physiquement parlant. Maintenant, si on se base sur leur expérience et si on se base sur leur vécu à ce niveau-là, ils peuvent peut-être apporter justement un supplément à cette équipe-là et donner une expérience complémentaire avec les jeunes joueurs. Mais j'ai envie de dire, faut tenter, faut oser, certainement. Et c'est ce que Patrick Vieira va essayer de faire.
Peut-être devoir faire, peut-être contraint et forcé. On va refermer cette émission avec la perspective du mercato. Je vous ai parlé des 6 matchs qu'il reste avant la fin de cette année 2023. Le mercato, c'est du 1er au 31 janvier de l'année prochaine. Il n'y a pas de piège. Fred, c'est trop tôt pour en parler, ou au contraire, il est temps d'y penser très sérieusement?
Ah mais moi je vous dis, mouillez-vous la nuque, parce que vous allez être déçus, je pense clairement, enfin personnellement, je pense qu'on va être déçus. Les joueurs que tu as cités, effectivement, moi je les vois pas revenir. L'idée clairement aujourd'hui n'est pas là. Et aujourd'hui, tout le monde espère recruter peut-être un cadre par ligne ou un truc comme ça. Je ne vois pas aujourd'hui le Racing changer de stratégie.
Ça sera le révélateur des intentions du club et de ses propriétaires?
Si totalement.
On recrute personne, si on recrute des jeunes pour mettre sur des jeunes, ou si on recrute vraiment des cadres?
Eh ben, je suis plutôt dans la deuxième situation.
Mais ça sera un révélateur.
Oui, clairement. Et là, on verra déjà. Et après, derrière, malheureusement, le club payera ce qu'il a semé. Clairement, il récoltera ça d'une force qui peut être assez surprenante. Donc, ne vous attendez pas non plus à avoir des sanctions, des joueurs comme ça qui viennent. En tout cas, les signes ne sont pas positifs et dans cette idée-là.
Sébastien, tu en attends quelque chose, ou au contraire, est-ce que Patrick Vieira, je ne sais plus si je t'ai déjà posé la question ici, mais je la pose régulièrement, est-ce que Patrick Vieira finalement n'a pas le luxe que quasiment aucun entraîneur n'a, des dirigeants qui lui laissent du temps?
Bah, le temps, on le voit bien au niveau comme ça, il est compté. Il est compté aussi quand on voit Rennes, les contre-performances. Bruno Genesio est dans la même situation, alors qu'il a un effectif quand même peut-être plus fourni. Aujourd'hui, les semaines passent, les points sont à prendre. Et si on ne veut pas se retrouver dans une situation compliquée, forcément, à un moment donné, on a un effectif et c'est comment l'amener pour être le plus performant possible. Si aujourd'hui Patrick Vieira ne peut pas s'appuyer sur des joueurs ou d'autres joueurs dans la vision avec un recrutement externe pour étoffer le groupe, il devra faire avec ce qu'il a. Et là, par contre, après derrière, il faut être en mesure et en capacité de dire ce qu'on va jouer, ce qu'on a comme objectif. Et je pense qu'il est à même à savoir, en fonction de la qualité aujourd'hui de l'effectif qu'il a, ce qu'on est en capacité de pouvoir jouer, de pouvoir faire par rapport aux autres équipes de Ligue 1.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de discours très clair des dirigeants sur l'objectif sportif de cette saison. Au début, c'était jouer haut, et puis finalement, c'est plutôt pour dans 2-3 ans. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Petite pause multisport dans ce Cup Racing. Il n'y avait pas de foot donc ce week-end, mais ça a joué sur beaucoup d'autres terrains. Petit coup d'œil dans l'actu alsacienne sportive de ce week-end. Regardez.
À la victoire contre Saint-Quentin mardi dernier n'aura visiblement pas lancé la SIG. Sur le parquet de Chalon-sur-Saône, défait lors de ses trois derniers matchs, les Strasbourgeois coulent pendant la première mi-temps et encaissent 59 points. Mais comme souvent, les hommes de Massimiliano Cancellieri ne lâchent pas, les résultats sont absents, pas le mental. Grâce notamment aux 18 points de Shondy Brown, Strasbourg revient à 4 points dans le troisième carton. Un écart minime jamais comblé, Chalon profite de la débauche d'énergie alsacienne pour reprendre le large dans la quatrième reprise. Défaite 101-91 face à un adversaire direct pour le maintien. La SIG est 15e au classement. Entre les deux premiers de Liga, Levallois, Paris et Mulhouse, le match ne pouvait être que serré. À domicile, les Alsaciennes démarrent fort. Le premier s'était accroché, mais à 22 partout, le VMA prend les devants et empoche la première manche. La deuxième reprise est parfaitement gérée par les filles de François Salvani à 2-0. On imagine mal alors Mulhouse ne pas enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat. Et pourtant, Levallois, Paris prend les commandes dès le début du troisième set et déroule un scénario identique dans le quatrième. À direction le tie-break où les Mulhousiens ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes et s'inclinent finalement 15-3 dans la manche décisive. Première défaite cette saison en championnat pour le VMA. Et puis la Marseillaise qui retentit à Alger grâce à une Strasbourgeoise, la sabreuse Sarah Balzer, qui a remporté vendredi la première étape de la Coupe du Monde dans la capitale algérienne. Sur un petit nuage, la numéro 1 mondiale de la discipline a parfaitement tenu son rang. Sarah Balzer, on peut le dire, a même survolé les débats en s'imposant notamment en finale face à l'Ukrainienne Olga Karlan, quadruple championne du monde. De très bon augure en cette année olympique pour Sarah Balzer, qui en profite d'ailleurs pour se rapprocher de la qualification.
Voilà, et bravo à Sarah Balzer qui s'ouvre tout doucement la voie vers les Jeux Olympiques. Sébastien, donc t'as pas joué ce week-end, le rendez-vous pour la FAIG prochain?
C'est l'Azim, un gros morceau là à domicile samedi soir à 17h30.
Belle affiche, 17h30, c'est avec Kirsch, impec. Fred, Planet Racing, mardi soir, demain soir, évidemment, au programme.
21h, ouais. Comme tous les mardis, 21h sur ABS, et normalement on aura le plaisir d'avoir Kevin Zoe, l'ancien du Racing, pour parler un petit peu de Sochaux aussi et puis de son actualité, comme on fait tous les mardis. La semaine dernière c'était avec Jiku, donc voilà, on a toujours plaisir aussi à reprendre des infos des anciens, et puis on va se plonger tout doucement vers le match face à l'OM où j'espère que le Racing va nous offrir des émotions, parce que c'est ce qui manque.
Allez, des émotions, on se retrouvera à nous évidemment la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de ce Cup Racing ce lundi soir. On se retrouve lundi prochain, évidemment on sera à quelques jours de la réception de l'OM justement à la Méno. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.